Hier, le Père Emmanuel Marie nous montrait, en parlant du rosaire, que le rosaire était une école de méditation et de contemplation. Et que pour pouvoir profiter de la méditation du rosaire, il ne fallait pas se contenter de s'arrêter à l'aspect extérieur du rosaire, mais qu'il fallait essayer d'en pénétrer le sens, en nous appuyant, disait-il, sur l'Évangile. Et c'est ce que nous voudrions faire ce soir, en nous arrêtant simplement à un mystère, à savoir le mystère de l'Annonciation. Nous avons vu par la suite que la Sainte Vierge est l'Immaculée, qu'elle est mère, qu'elle est reine, et qu'elle est médiatrice. Et justement, ce rôle de médiatrice apparaît spécialement dans ce mystère de l'Annonciation. Par son oui, la Sainte Vierge accepte d'être intermédiaire entre Dieu et nous. Dieu veut venir vers nous et il choisit la Sainte Vierge comme intermédiaire. Et consciemment et librement, la Sainte Vierge accepte d'être cet intermédiaire. Donc, c'est le jour de l'Annonciation que la Sainte Vierge apparaît en premier lieu, au moins extérieurement, comme médiatrice. Par ailleurs, un autre aspect qu'on a vu de la Sainte Vierge, c'était Monseigneur Felet qui nous en parlait, que la Sainte Vierge est miroir de justice. Et là aussi, en nous attardant uniquement au mystère de l'Annonciation, je voudrais vous montrer que le fiat de la Sainte Vierge, le oui de la Sainte Vierge, est le miroir, l'écho, le reflet du oui de notre Seigneur. Donc, en nous penchant sur ce mystère de l'Annonciation, il ne faut pas uniquement regarder le fiat de la Sainte Vierge, il faut aussi regarder le fiat de notre Seigneur. Fiat de notre Seigneur qui a précédé le fiat de la Sainte Vierge. Sans le fiat de notre Seigneur, il n'y aurait pas eu le fiat de Notre-Dame. Et puis ensuite, nous essaierons de prolonger cette méditation en vous montrant que cette attitude qu'on pourrait appeler d'Annonciation, ce oui de la Sainte Vierge qui apparaît le jour de l'Annonciation, n'a pas été une attitude exceptionnelle, une attitude ponctuelle, mais que ça a été une attitude habituelle en Notre-Dame. La Sainte Vierge ne s'est pas contentée de dire oui une fois à Dieu dans sa vie, c'est tout au long de sa vie qu'elle a dit oui à Dieu. Et comme il ne suffit pas de contempler le modèle, il faut ensuite essayer de le reproduire, au moins d'une certaine manière, nous essaierons de voir de quelle manière nous pouvons, à notre tour, vivre cette attitude d'Annonciation. Alors voyons tout d'abord la visite de l'archange Gabriel, en nous appuyant, comme on le disait, sur l'Évangile. Quand la plénitude des temps furent accomplis, l'archange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de la Sainte Vierge dans le petit village de Nazareth en Galilée. Cela est rapporté par saint Luc, le chapitre 1er, les versets 26 et suivants. Et ici, l'archange Gabriel commence par saluer la Sainte Vierge. Et il la salue avec une telle vénération que la Sainte Vierge en est troublée. « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » C'est là le premier des myriades d'Ave qui fut prononcé. Et remarquez que la Sainte Vierge n'est pas troublée par la visite de l'ange. La Sainte Vierge était tellement proche des anges et des saints par la foi, qu'elle n'est pas troublée par la visite de l'ange, mais qu'elle est troublée par ses paroles. Je pense que si nous, on avait un jour la visite d'un ange, je pense que cette visite pourrait nous paraître un peu surprenante. Eh bien, ici, l'évangéliste nous dit que « elle, l'ayant entendu, fut troublée de ses paroles ». Donc, non pas de sa visite, mais de ses paroles. C'est le verset 29, toujours, du premier chapitre de saint Luc. Et pourquoi est-elle troublée? C'est que la Sainte Vierge est tellement petite à ses propres yeux, parce qu'elle est parfaitement humble, qu'elle se demande comment un tel éloge peut lui convenir. Alors l'ange la rassure en lui disant « Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Et ici, la Sainte Vierge comprend ces paroles de l'ange. Elle comprend qu'on lui demande de devenir la mère du Messie, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. La Sainte Vierge, depuis sa plus tendre enfance, a soupiré après la venue du Messie. On le voit dans l'Ancien Testament, tous les justes de l'Ancien Testament n'avaient qu'un souci, qu'un désir. C'était de voir le Messie venir sur la terre pour nous racheter de nos péchés. Alors si déjà tous les justes de l'Ancien Testament n'avaient qu'un seul désir, c'était de voir ce Messie venir sur terre, quel fut ce désir de Notre-Dame? Et ce désir fut si grand que les auteurs spirituels se plaisent à dire que la Sainte Vierge a conçu l'enfant Jésus spirituellement avant de le concevoir physiquement. C'est-à-dire qu'elle a eu un tel désir de voir le Messie venir en elle qu'effectivement, il est venu en son sein. Par conséquent, la Sainte Vierge veut voir le Messie venir sur la terre. Mais seulement, elle ne comprend pas comment cette descente du Fils de Dieu sur la terre est compatible avec son vœu de virginité. La Sainte Vierge a fait le vœu de virginité. L'ange lui demande d'être mère. Comment être à la fois mère et vierge? Par conséquent, la Sainte Vierge ici ne se demande pas si elle va ou non accomplir la volonté de Dieu. Elle ne se demande pas si ce sera difficile ou pas difficile d'accepter d'être la mère de Dieu. Elle se demande simplement où est la volonté de Dieu. Comment concilier la virginité, le vœu de virginité qu'elle a fait avec la maternité qu'on lui propose? Alors, pour sortir du doute, eh bien, elle s'informe auprès de l'ange, comme lui commande la prudence et la sagesse surnaturelle. « Comment cela se fera-t-il » dit-elle, « car je ne connais point d'homme. » Et la réponse est immédiate. « Le Saint-Esprit viendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous, sera appelé le Fils de Dieu. » Alors, dès que le doute de la Sainte Vierge élevée, elle n'hésite pas un instant. La Sainte Vierge ne lui dit pas, ben attendez, je vais réfléchir, revenez demain. Non. Immédiatement, elle répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Alors essayons d'approfondir ces quelques mots que nous connaissons bien, que nous récitons, je l'espère, 3 fois par jour lorsqu'on récite l'Angélus. Je suis la servante du Seigneur. Donc la Sainte Vierge ne commence pas par dire « qu'il me soit fait selon votre parole », elle commence par dire d'abord « je suis la servante du Seigneur ». Ce qui signifie « il est mon Créateur, il est mon Dieu, je suis sa créature ». Par conséquent, je ne suis rien par moi-même. Il sait mieux que moi pourquoi il m'a créé. Et je n'ai qu'un désir, c'est d'accomplir sa volonté. Et ici, je crois que c'est important de nous rappeler que toutes les créatures obéissent à Dieu. Toutes les créatures, minérales, végétales, animales, obéissent à Dieu. Elles ont toutes été créées pour une fin propre. Le soleil a été créé pour produire la lumière et la chaleur. Et on se rend compte aujourd'hui, vous voyez, qu'il produit lumière et surtout chaleur. L'arbre a été créé pour produire du fruit. Chaque arbre produit son fruit. Le pommier produit des pommes, le poirier des poires, etc. Chaque animal également répond à ce pourquoi il a été créé. Par exemple, l'abeille produit du miel, et ainsi de suite. Seulement, ces créatures agissent en suivant le déterminisme de leur nature. Elles sont déterminées par leur nature, donc dans leur marche vers leur fin. Tandis que l'homme, lui, ainsi que l'ange, ils sont aussi faits pour Dieu, mais seulement Dieu veut qu'ils s'avancent librement vers lui. Donc la liberté ne nous a pas été donné pour qu'on dise non à Dieu, mais pour qu'on puisse dire oui à Dieu. Et comme le rappelait M. Labénérie, Cette liberté nous a été donnée en raison de l'amour, parce que l'amour implique la liberté. Si on est forcé d'aimer, eh bien ce n'est plus de l'amour. L'amour implique la liberté. Mais la liberté nous a été donnée pour qu'on dise oui à Dieu et non pas qu'on dise non. Et par conséquent, la liberté de l'homme ne peut pas être absolue. Une liberté ne peut pas être absolue. Toute liberté créée est nécessairement limitée. Par exemple, déjà au niveau naturel, je ne suis pas libre de voler comme un oiseau, je n'ai pas d'aile. Je ne suis pas libre de vivre dans l'eau comme un poisson, mon organisme n'a pas été conçu pour cela. Eh bien, ce qui est vrai du domaine physique est vrai aussi du domaine moral. De la même manière qu'il y a des lois physiques que l'homme doit respecter, s'il ne les respecte pas, eh bien, il tombera d'une manière ou d'une autre. Quand on se jette par la fenêtre sans tenir compte de la loi de la pesanteur, on se casse la figure. Eh bien, ce qui est vrai des lois physiques est vrai aussi des lois morales. Donc là encore, il y a des lois à respecter. Et c'est en se soumettant à la loi de Dieu que l'on peut s'épanouir. Et c'est ce que l'on voit à travers le oui de la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge dit « Je suis la servante du Seigneur. Je suis sa créature. Il m'a créée dans une fin, avec une fin déterminée. Mon but, ça doit être d'accomplir cette fin. Qu'il me soit fait selon votre parole. » Ici, la Sainte Vierge ne dit pas « qu'il soit fait selon la volonté de Dieu », mais « qu'il soit fait selon votre parole ». Ce qui montre que la Sainte Vierge, ici, ne se soumet pas directement à Dieu, mais elle se soumet aux intermédiaires choisis entre Dieu et elle, à savoir ici un ange. Nous-mêmes, si notre Seigneur nous apparaissait directement pour nous dire ce qu'il attend de nous, eh bien, certainement qu'on l'accepterait. Voudriez-vous, madame, bien vouloir, je ne sais pas moi, accepter d'avoir un enfant de plus, si c'est telle est la volonté de Dieu? On dirait, mais oui, oui, je le désire. Mais en fait, il faut savoir que la volonté de Dieu passe par des canaux humains. Et c'est parce que, justement, il s'agit de canaux humains qu'on a plus de mal à accepter. Et ce qu'il y a de beau à voir dans la vie de la Sainte Vierge, c'est que la Sainte Vierge se plaît à obéir à tous les intermédiaires choisis entre Dieu et elle. Ici, c'est un ange. Lorsqu'il s'agira du mystère de la visitation, ce sera simplement une inspiration de l'Esprit Saint. Elle obéira à cette inspiration. Ensuite, ce sera le décret de César Auguste. Elle obéira au décret de César Auguste en se rendant à Jérusalem pour le recensement. Ensuite, ce sera Saint Joseph qui ira la réveiller au milieu de la nuit. Saint Joseph apparaît à nouveau comme étant intermédiaire entre Dieu et elle. Et à nouveau, elle va se soumettre. Donc, vous voyez jusqu'où est allée l'obéissance de la Sainte Vierge. Une obéissance à Dieu, mais une obéissance aux intermédiaires choisis par Dieu. Qu'il me soit fait selon votre parole signifie ici que se réalise la prédiction que vous venez de faire, que je devienne la mère de Jésus, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Donc la Sainte Vierge accepte consciemment et librement de devenir la mère du Sauveur. Et par conséquent, elle accepte aussi de devenir notre mère. C'est ce que l'abbé Néry rappelait tout à l'heure. S'il est vrai que c'est surtout au pied de la croix que la Sainte Vierge est devenue notre mère, pleinement, elle est déjà devenue notre mère d'une certaine manière à l'Annonciation. En mettant au monde le Sauveur, elle met au monde la tête du corps mystique. On ne peut pas séparer la tête des membres. Ce n'est pas un monstre que la Sainte Vierge a mis au monde, mais un être complet. Et par conséquent, nous sommes déjà unis dans la pensée de la Sainte Vierge à son Fils, au moment de la conception de son Fils. Alors on peut se demander comment la Sainte Vierge a-t-elle été capable de prononcer un oui si généreux, et surtout avec une telle promptitude. Eh bien cela venait de la générosité habituelle que la Sainte Vierge a eue depuis sa plus petite enfance. Notre Seigneur nous a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes ». Si nous savons être fidèles à notre devoir d'État dans les petits riens de la vie quotidienne, nous aurons la grâce lorsque Dieu nous demandera quelque chose de plus important. Mais si nous sommes négligents dans les petits détails de la vie quotidienne, eh bien il ne faut pas s'attendre à avoir la grâce lorsque Dieu nous demandera quelque chose de plus important. Donc voilà pour le oui de Notre-Dame. Mais comme je le disais, je crois que c'est important de ne pas oublier le oui de notre Seigneur. Quand on médite le mystère de l'Annonciation, on voit habituellement ce fiat de la Sainte Vierge et on peut peut-être oublier le fiat de notre Seigneur. Et ici, je m'appuierai tout simplement sur une parole de la Sainte Écriture. Comme le disait le Père Emmanuel Marie, il faut s'appuyer toujours sur du solide, hein, non pas sur des imaginations pieuses ou même sur des apparitions douteuses, mais sur la parole de Dieu. Et en lisant dans le passage de saint Paul aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7, on lit ceci. « Notre Seigneur Jésus-Christ dit en venant en ce monde, « Ô Père, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici que je viens pour faire votre volonté. » Donc notre Seigneur dit en venant en ce monde, c'est-à-dire le jour de l'Annonciation, c'est le jour de l'Annonciation que notre Seigneur est venu en ce monde, il dit, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, alors j'ai dit, voici que je viens, Père, pour accomplir votre volonté. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient impuissants pour racheter nos propres péchés, puisque nos péchés sont une offense qui sont faites à un Dieu infini. Il fallait donc que ce soit Dieu lui-même qui vienne nous racheter. Donc face à l'impuissance des sacrifices de l'Ancien Testament, le Verbe de Dieu décide de s'incarner et de s'offrir comme victime. Et ceci est important parce que on pourrait peut-être penser que notre Seigneur apparaît victime surtout à la fin de sa vie, lorsqu'il est mort sur la croix. Eh bien, nous le voyons ici, c'est dès le premier instant de son incarnation que notre Seigneur apparaît comme victime. Notre Seigneur apparaît comme prêtre, comme intermédiaire entre Dieu et nous dès l'instant de son incarnation, mais il apparaît aussi comme victime dès l'instant de son incarnation. Et de quelle manière va-t-il exercer son rôle de victime? En se soumettant à la volonté de son Père. Voyant qu'il n'y a pas de sacrifice agréable à Dieu, je dis, voici que je viens, Père, pour faire votre volonté. Donc voilà le sacrifice que Dieu attend de ses créatures. Que nous nous soumettions en tout à la volonté de Dieu. Maintenant, il importe de voir que le oui de la Sainte Vierge n'a pas été un oui passager, un oui ponctuel, mais un oui habituel. Et je crois que là aussi, c'est une chose qui est très importante. Ce qu'il y a de beau dans une vie humaine, ce n'est pas de se donner une fois à Dieu, même d'une façon héroïque. Cela est relativement facile. La difficulté dans la vie, c'est de ne pas se reprendre. Tous les prêtres, tous les religieux et les religieuses vous le diront. Donc la difficulté dans la vie, c'est de rester fidèle au oui premier, au oui initial, quel que soit l'état de vie. On le voit aujourd'hui malheureusement, la difficulté du oui du mariage par tous les divorces, hélas, que l'on peut voir à droite et à gauche. Donc la difficulté dans la vie, c'est la fidélité au oui. Et dans la Sainte Écriture, il y a deux passages qui indiquent la nécessité de la fidélité à ce oui premier. Tout d'abord, deuxième épître de Timothée, de saint Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 6, où saint Paul, qui était évêque, invite Timothée à raviver en lui la grâce de Dieu, grâce qu'il a reçue par l'imposition de ses mains. Saint Paul, évêque, s'adresse à Timothée, qui est prêtre, et lui dit, « Ravive en toi la grâce que tu as reçue le jour où je t'ai ordonné prêtre. » Eh bien, ce qui est vrai de la prêtrise est vrai aussi, par exemple, de la vie religieuse, mais aussi du mariage. Donc, il importe de raviver en soi la grâce sacramentelle que l'on a reçue lors du sacrement de mariage pour ceux qui sont mariés, ou pour les prêtres le jour de l'ordination, ou pour les religieux le jour de leur profession. Et cela est vrai, d'ailleurs, mutatis mutandis, également de tous les engagements que l'on prend. Lorsqu'on fonde une entreprise, lorsqu'on accomplit une mission quelconque, il faut rester fidèle à ce oui, fidélité à la parole donnée. Et l'autre passage qui montre la difficulté à rester fidèle, c'est un passage tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 5, où notre Seigneur s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse. En fait, l'ange de l'église d'Éphèse, c'est l'évêque d'Éphèse. Et voici ce que lui dit notre Seigneur. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as soumis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as eu à souffrir pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Donc jusque-là, c'est parfait. Cet évêque paraît vraiment un évêque modèle. Il est persévérant, il travaille, il déteste le mal. Le signe que l'on aime le bon Dieu, c'est qu'on a la haine du péché, la haine du mal. Et donc, il ne s'est pas lassé. Mais, ajoute notre Seigneur, j'ai contre toi que tu t'es relâché de ta charité première. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Donc je crois que c'est important toujours, quel que soit donc notre âge, de nous dire cela. La nécessité de rester fidèle à la grâce première, à ce oui premier. Et je pense que quand on dit l'Angélus, il est bon de se rappeler, quand on dit « fiat mihi secundum verbum tuum », qu'il soit fait selon votre parole, de voir où nous en sommes du « oui » que l'on a pu prononcer. Vous voyez, par exemple, les prêtres, quand ils disent la messe, le moment le plus important de la vie du prêtre, c'est la messe, bien sûr, puisque le prêtre est ordonné pour la messe. Au commencement de la messe, le prêtre dit « je monterai à l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse ». Le prêtre qui a 85 ans, eh bien, il parle du Dieu qui réjouit sa jeunesse. Donc, le bon Dieu veut que nous restions jeunes. Et jeunes dans le sens de cette ouverture à la grâce. Et là, on reconnaît qu'il y a des jeunes, au contraire, qui sont vieux. À 18, 20 ans, ouais, bof, on a l'impression qu'ils ont déjà tout vu, tout entendu. Et à l'inverse, on rencontre des personnes qui ont un certain âge et qui restent jeunes, jeunes d'esprit. Eh bien, c'est ce que le bon Dieu veut. Et cette jeunesse nous sera accordée, nous pourrons rester jeunes si nous savons rester fidèles à ce oui initial. Et c'est ce que l'on voit dans la vie de la Sainte Vierge. Par exemple, mystère qui suit l'Annonciation, la Visitation. Quand on médite vraiment ce mystère de l'Annonciation, on voit comment la Sainte Vierge est plongée en Dieu, est remplie de Dieu. Et certainement qu'elle qui était si contemplative, si on lui avait demandé le choix entre rester chez elle à Nazareth pendant 9 mois pour profiter de l'enfant Jésus qui était en elle, ou bien de sortir pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth, humainement, elle aurait préféré profiter de cette présence de notre Seigneur en elle. Elle aurait préféré rester tout absorbée dans l'union intime avec son Fils. Mais elle n'hésite pas une seconde. Le Saint-Esprit lui suggère d'aller voir sa cousine Élisabeth. Elle s'exécute sur le champ. Là encore, c'est important de regarder les moindres détails de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture nous dit qu'elle se rendit en grande hâte, festinabat. Donc, un des signes de la véritable obéissance, c'est qu'elle doit être prompte. Prompte et joyeuse. Ensuite, quelques jours avant Noël, là encore, la Sainte Vierge, qui avait tout préparé certainement pour que son fils naisse à Nazareth, eh bien, arrive l'édit fatal qui annonce également qu'elle doit partir. Et là encore, elle se rend à l'appel de Dieu. Elle n'hésite pas une seule seconde. Ensuite, après la Nativité, lorsque Saint Joseph la réveille au milieu de la nuit pour lui demander de partir tout de suite et de s'enfuir en Égypte, elle aurait pu se dire, comment partir au milieu de la nuit? Enfin, est-ce que le bon Dieu n'aurait pas pu trouver un autre moyen, quand même, plus commode? On pourrait quand même attendre demain. Eh bien non. Le bon Dieu parle par des intermédiaires. Elle obéit à ses intermédiaires. On pourrait aussi méditer, c'est un mystère qui est très beau, le mystère de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Dans ce mystère, on voit bien les dispositions intérieures de l'âme de la Sainte Vierge. Vous savez qu'au bout de 40 jours, lorsqu'on mettait son premier fils au monde, on devait l'offrir au temple. Donc la Sainte Vierge se rend au temple pour offrir l'enfant Jésus. Mais cette offrande qu'elle fait de son enfant n'est pas uniquement une offrande rituelle extérieure, c'est vraiment une offrande intérieure. C'est vraiment la présentation de l'enfant Jésus au temple, c'est l'offertoire de la Sainte Vierge. C'est l'offrande profonde de son fils. Et ce qui montre l'attitude d'âme de la Sainte Vierge dans ce mystère de la présentation apparaît lorsqu'elle sort du temple. Là, elle croise le vieillard Siméon qui prend l'enfant Jésus et qui dit à la Sainte Vierge que son fils sera un signe de contradiction et qu'elle, un glaive de douleur, lui transpercera l'âme. La Sainte Vierge a tout donné à Dieu lorsqu'elle était au temple. Et la réponse de Dieu, c'est justement l'acceptation du sacrifice que la Sainte Vierge vient de faire au temple de son fils. L'offertoire annonce la consécration. L'offrande de son fils annonce son immolation sur la croix. Ensuite, le oui de la Sainte Vierge, là je ne m'attarde pas puisqu'on en a déjà parlé, apparaît lorsque la Sainte Vierge reste debout au pied de la croix, ce qui montre là encore qu'elle reste fidèle à Dieu. Et puis, il va se prolonger même après l'ascension. Là encore, la Sainte Vierge n'aurait eu qu'un désir, c'était de monter au ciel tout de suite avec son fils. Le bon Dieu lui demande de rester une vingtaine d'années sur la terre, et là encore, elle l'accepte en souriant aimablement. Et le dernier oui, la Sainte Vierge, c'est celui qu'on pourra contempler demain, en la fête de l'Assomption. La Sainte Vierge accepte à nouveau de rendre son âme à Dieu lorsque le moment est venu. Dernier oui, la Sainte Vierge. Et par là, elle nous montre, vous voyez, ce qu'est la sainteté. Je crois qu'on se trompe parfois sur la sainteté, on croit qu'il s'agit de faire de grands miracles ou de faire de très grandes choses. La sainteté réside essentiellement dans une disponibilité totale au bon plaisir de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut que nous puissions redire, chacun d'entre nous, à tout moment, « Fiat mihi secundum verbum tuum »« Qu'il me soit fait selon votre parole ». Ou alors, à la suite de notre Seigneur, « Voici, Père, je viens pour accomplir votre volonté ». Et pour cela, il faut, je pense, imiter les dispositions intérieures de la Sainte Vierge au jour de l'Annonciation. Alors, il resterait à voir maintenant, c'est la deuxième partie, comment acquérir cette attitude d'Annonciation. On a vu comment la Sainte Vierge, consciemment et librement, a toujours dit oui à Dieu, comment nous-mêmes, nous pouvons acquérir cette même attitude d'annonciation. Eh bien, cela suppose, premièrement, qu'on désire accomplir la volonté de Dieu. Et deuxièmement, comme on va le voir, qu'on acquiert une indifférence de volonté qui nous permette de dire oui à Dieu sans hésiter lorsque sa volonté est clairement manifestée. Tout d'abord, désirer accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est capital. Il faut au moins être d'accord là-dessus. Il faut se dire que Dieu est providence. Donc Dieu prévoit, c'est toute la question de la préordination dont on a parlé ce matin, et Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu a un dessein particulier sur chacun d'entre nous. Nous avons tous une mission à remplir sur la terre. Et notre désir, ça doit être d'accomplir cette mission. Alors ce plan de Dieu nous est en partie connu, nous savons en tout cas dans les grandes lignes que Dieu veut qu'on se soumette à ses commandements, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Dieu veut aussi, c'est un autre aspect, qu'on se soumette à l'esprit des conseils évangéliques. Vous savez, les conseils évangéliques, c'est le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Dieu ne nous demande pas à tous de faire ses vœux, mais au moins de vivre dans l'esprit des vœux. En effet, le chemin le plus direct pour aller au ciel, ce sont les vœux, ça c'est clair. Le bon Dieu dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donc le chemin le plus direct pour aller au ciel, c'est le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est le chemin le plus direct parce que les trois obstacles pour aller à Dieu, c'est l'attache déréglée au bien de ce monde, et contre cette attache déréglée, il y a le vœu de pauvreté. Ensuite, deuxième obstacle, c'est l'attache déréglée au bien sensible. Et contre cet obstacle, il y a le vœu de chasteté. Et le troisième obstacle, c'est l'attachement déréglé à notre volonté propre. Et pour lever cet obstacle, il y a le vœu d'obéissance par lequel on se soumet à la volonté d'un autre. Donc, nous savons que ces trois obstacles qui représentent la triple concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie, sont les obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc ceux qui font ces trois vœux, ils choisissent le chemin le plus direct pour aller au ciel. Mais comme nous avons tous été créés pour aller au ciel, nous devons tous vivre dans cet esprit-là. Nous devons être détachés des biens de ce monde. Si nous sommes attachés aux biens de ce monde, nous ne pourrons pas aller au ciel. Si nous avons des attaches déréglées vis-à-vis des créatures au point de préférer la créature au créateur, nous ne pourrons pas aller au ciel. Si nous sommes trop attachés à notre volonté au point de se détacher de la volonté de Dieu en matière grave, nous ne pourrons pas aller au ciel. Donc là encore, le plan de Dieu nous est connu à travers les conseils évangéliques. Ce sont que des conseils. Si tu veux être parfait, le bon Dieu ne lui dit pas de suivre nécessairement ce conseil, puisque c'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Et puis, il y a ensuite la volonté de Dieu qui apparaît encore, par exemple, pour les religieux à travers leurs statuts et autres. Donc, toute cette volonté-là, c'est ce qu'on appelle la volonté signifiée de Dieu. Dieu nous l'a signifiée clairement. Mais ensuite, à cette volonté signifiée de Dieu, s'ajoute ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir de Dieu. Dieu parle par les événements. Par exemple, le fait qu'il y ait telle température aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Donc, ça fait partie de la volonté du bon plaisir de Dieu. Donc, la volonté du bon plaisir de Dieu, ce sont tous les événements qui nous touchent et que nous n'avons pas recherchés d'une façon particulière. Donc, tout coopère au bien de ce qui aime Dieu, nous dit saint Paul, parce que tous les événements qui nous touchent et que nous n'avons pas recherchés sont ou voulus de Dieu ou permis par lui pour notre plus grand bien. Et alors, dans cette volonté du bon plaisir de Dieu, saint François de Sales insiste là-dessus et il précise que cette union de notre volonté au bon plaisir de Dieu se fait principalement par les tribulations. Parce que la croix est le don que Dieu réserve à ses amis. Aimer la volonté de Dieu parmi les consolations, c'est bien, à condition que ce soit vraiment la volonté de Dieu qu'on aime et non les consolations. Ou même on peut aussi aimer les consolations d'ailleurs, mais pas plus que Dieu. Ensuite, aimer la volonté de Dieu à travers ses commandements, ses conseils, et même aussi ses inspirations, les inspirations de l'Esprit Saint qu'on peut recevoir, c'est déjà plus difficile et donc plus parfait. Mais aimer la volonté de Dieu dans les souffrances, c'est ce qu'il y a de plus parfait sur la terre. Parce qu'il n'y a ici rien d'aimable sinon la volonté de Dieu. Alors que faire pour parvenir à aimer d'un amour de volonté la volonté de Dieu dans l'adversité? Eh bien, ça exige, comme on l'a dit, de nous détacher de toute affection déréglée aux créatures. Le principal obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce sont les attaches déréglées qu'on peut avoir aux créatures. Si nous n'avons plus aucune attache déréglée vis-à-vis de quelque créature que ce soit, extérieure ou de nous-mêmes d'ailleurs, parce que c'est surtout nous-mêmes qui sommes finalement le principal obstacle à notre sainteté, eh bien en ce moment-là, nous serions saints. Donc, la volonté de bon plaisir de Dieu se manifeste principalement dans les tribulations. Et alors, lorsqu'une tribulation se présente, il y a deux attitudes chrétiennes possibles. Je dis chrétienne, il y a l'attitude païenne qui consiste à refuser la croix, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'on la porte. C'est pour ça qu'on dit que quiconque qui est sur la terre doit porter la croix, soit comme le bon larron, soit comme le mauvais larron. Mais n'importe comment, nous devons la porter. Mais il y a deux manières de porter sa croix de manière chrétienne. La première manière, c'est la résignation. Par exemple, je suis gravement malade, je ne sais pas si ma maladie va me conduire à la mort, mais je suis résigné à accepter cette éventualité si telle est la volonté de Dieu. Je préfère vivre, mais si Dieu veut me rappeler à lui, dès maintenant, j'accepte. Donc, je me résigne à me soumettre à la volonté de Dieu. Mais je me force, en quelque sorte, à me soumettre à la volonté de Dieu. Et la deuxième manière plus parfaite, dit saint François de Sales, c'est l'indifférence. Donc, dans l'exemple que nous venons de prendre, ça signifie, dans ma sensibilité, sans doute, parce que je suis un homme, un être humain, fait de chair et d'os, sans doute que je préfère vivre, parce que l'homme aime la vie, mais malgré tout, je m'abandonne totalement à la volonté de Dieu. Dieu sait mieux que moi ce qui me convient. Mon Dieu, choisissez pour moi. C'est ce que disent ceux qui sont capables de prononcer ce oui avec cette indifférence de volonté. Donc vous voyez que l'indifférence est au-dessus de la résignation. parce qu'elle n'aime rien d'autre que la volonté de Dieu. Alors ici, c'est très important parce que certains se trompent sur cette indifférence et croient qu'il est possible ici-bas d'avoir une indifférence de sensibilité. Eh bien non. Naturellement, l'homme, dans sa sensibilité, n'accepte pas le mal, n'aime pas le mal, n'aime pas la souffrance. Et on voit que notre Seigneur, qui était pleinement homme, dans sa sensibilité, lui-même, il refusait la souffrance. On le voit dans son agonie au jardin des Oliviers, où notre Seigneur s'écrie « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi ». Notre Seigneur a fait cette prière. « S'il est possible de retarder l'heure de mon sacrifice, ô Père ». Seulement, il ajoute « Mais non pas comme je veux, mais comme vous voulez ». Et c'est là qu'on voit la soumission de la volonté de notre Seigneur à la volonté de son Père. Donc, dans cette phrase, on voit ces deux aspects que je veux mentionner. D'abord, cette sensibilité qui répugne à souffrir, et puis ensuite, la volonté qui, dans la fine pointe de l'âme, comme dit saint François de Sales, adhère à la volonté de Dieu, même si tout le reste est dans le brouillard. Il y a des moments dans la vie, quand une grosse épreuve vous tombe dessus, eh bien, vous êtes vraiment dans le brouillard. Mais il faut qu'au moins la fine pointe de notre âme adhère à la volonté de Dieu. Donc ne soyons pas surpris de voir que notre sensibilité a cette répugnance à la souffrance. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Les bouddhistes, pour eux, l'idéal, c'est d'éteindre toute passion. Ce n'est pas catholique. Pascal disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Les tempéraments les plus forts, ce sont les tempéraments les plus riches, ce sont les tempéraments passionnés, ce ne sont pas les tempéraments amorphes. Donc Dieu ne veut pas qu'on éteigne notre sensibilité, mais qu'on la canalise en la soumettant à la volonté de Dieu. Et remarquons encore aussi que cette indifférence ne nous conduit pas à abandonner les moyens humains pour recouvrer la santé. Si je suis gravement malade, j'ai le devoir, non seulement le droit, mais le devoir de prendre les moyens au moins ordinaires pour retrouver la santé. Je ne suis pas tenu d'utiliser des moyens extraordinaires, mais je dois prendre les moyens ordinaires pour retrouver la santé. Donc l'abandon, voyez, à la providence ne doit pas nous conduire à nous abstenir des moyens naturels que Dieu a mis à notre disposition pour nous soigner. Et notons enfin que normalement l'indifférence regarde la volonté de Dieu qui ne nous est pas encore connue. Lorsque la volonté de Dieu nous est manifestée, là, on ne doit plus être indifférent. On doit s'attacher tout de suite à la volonté de Dieu, ce qui apparaît à Notre-Dame. Fiat mihi, secundum verbum tuum, à l'instant même où elle est sûre que la volonté de Dieu est qu'elle dise oui à Dieu. Et saint François de Sales, enfin, vous trouvez tout cela dans le traité de l'amour de Dieu que je vous invite à lire si ce sujet vous intéresse, et je pense qu'il vous intéresse, puisque ça touche quand même à la sainteté, à la vie spirituelle. Saint François de Sales donc affirme que cette disposition d'âme, il faut essayer de l'avoir d'abord vis-à-vis de la vie naturelle, comme la santé, la maladie, la beauté, la laideur, la faiblesse, la force, vis-à-vis ensuite de la vie civile, comme les honneurs, le rang social, les richesses, donc à être disposé, à se détacher des biens de ce monde, si telle est la volonté de Dieu, et même vis-à-vis de la vie spirituelle aussi. Je suis en ce moment dans la sécheresse, je ne sais pas combien de temps ça va durer, soyons toujours réalistes, sachons accepter la volonté de Dieu. Le fait de la refuser ne change rien. Ce n'est pas parce que je refuse la volonté de Dieu que je vais être rempli de consolation. Donc sachons accepter chrétiennement cette volonté de Dieu. Donc, vous voyez que pour être capable de dire toujours oui à Dieu, et spécialement dans l'adversité, puisque c'est là que c'est le plus difficile, dire oui à Dieu quand tout va bien, là ça va, on est tous d'accord. Mais pour être capable de dire oui à Dieu toujours et spécialement dans l'adversité, il faut essayer d'acquérir cette indifférence de volonté qui suppose le détachement de toute affection déréglée. Et puis il reste enfin, avant de conclure, à voir le fruit de cette disposition d'âme. L'âme qui acquiert cette maîtrise d'elle-même et cette ouverture à la volonté de Dieu considère que tout est grâce. Et c'est pourquoi elle vit dans l'action de grâce. L'âme qui est complètement fiat, complètement abandonnée à l'action de Dieu sur elle, vit dans l'action de grâce. Et c'est pourquoi le fruit du fiat de la Sainte Vierge, c'est son Magnificat. Lorsque Sainte Élisabeth salue Notre-Dame qui vient de concevoir l'enfant Jésus, la Sainte Vierge répond à sa salutation par le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur qui a fait en moi de grandes choses. Alors, quel est le moyen pratique, concret, accessible à tous pour nous maintenir dans cette disposition d'âme de la Sainte Vierge au jour de l'Annonciation? Eh bien, je pense que l'un des moyens les plus faciles, les plus accessibles, les plus concrets, c'est la récitation de l'Angélus. Il faudrait que chaque fois que nous redisons ces paroles, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, que nous protestions intérieurement de notre désir de vivre sous la dépendance de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Faites de moi, ô mon Dieu, ce qu'il vous plaira. Et pour être capable de dire en toute vérité notre fiat, il faut prendre comme exemple la Sainte Vierge et notre Seigneur. Ce sont nos modèles. Mais comme on pourrait le dire en langage philosophique, notre Seigneur n'est pas seulement la cause exemplaire de notre sainteté, notre Seigneur est aussi et surtout la cause efficiente de notre sainteté. Donc cette transformation intérieure de notre âme, qui est nécessaire pour que l'on puisse dire oui à Dieu, est essentiellement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui change notre cœur. Donc essayons de faire ce qui dépend de nous pour essayer d'acquérir cette attitude, mais pensons bien que ce n'est pas à la force du poignet qu'on arrivera à faire taire toutes nos affections déréglées. C'est là l'œuvre de la grâce. La grâce a deux effets. La grâce guérit et la grâce surélève notre âme. Il ne faut pas oublier que si la grâce surélève notre âme, il ne faut pas oublier qu'elle guérit notre âme aussi. Donc, ayons confiance dans l'action de Dieu en nous. Et prions ici la Sainte Vierge à Lourdes pour qu'elle opère en nous cette conversion qui est nécessaire pour le salut de notre âme. Et puis enfin, je pourrais vous dire, si vous voulez, en pendant de ce que je viens de dire là, on pourrait prendre comme référence toujours Sainte Bernadette aussi, qui a été un modèle de fiat, hein, spécialement lorsque la Sainte Vierge apparaît le 18 février donc, et lui dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours de suite ?» C'est magnifique de voir comment la Sainte Vierge s'est pliée elle-même au libre arbitre de la petite Bernadette, qui avait 14 ans. On dit que la Sainte Vierge, au jour de l'Annonciation, avait 14-15 ans. Sainte Bernadette avait 14 ans, donc c'est à peu près le même âge. Et on voit comment la Sainte Vierge aurait très bien pu dire à la petite Bernadette, « Viens ici 15 jours de suite. » Pas du tout. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours de suite ?» Donc voyez comment le bon Dieu respecte la liberté de l'homme. Non pas pour que l'homme dise non à Dieu, mais pour qu'il puisse dire oui librement à Dieu, et pour qu'il puisse par conséquent mériter la vie éternelle. Et ici, c'est intéressant de voir que la petite Bernadette dit « Je lui répondais que oui. » Je lui répondais que oui. Fiat mihi secundum verbum tuum. La petite Bernadette répond à la Sainte Vierge ce que la Sainte Vierge elle-même a répondu le jour de l'Annonciation. Et en ce moment-là, que lui dit la Sainte Vierge ? « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Et on peut dire ici que, à travers son oui, la petite Bernadette a tout donné à Dieu. Et la réponse, là encore, de l'offrande qu'elle fait de son âme à Dieu, c'est le sacrifice qui doit suivre. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Dès lors qu'on se donne totalement à Dieu, le bon Dieu veut nous unir à son sacrifice, au sacrifice de son divin Fils, pour que nous puissions un jour participer, par les mérites de sa passion et de sa croix, à la gloire de sa résurrection, ainsi soit-il.